R D S Radio des Sorbes.
Source
de richesse.
Monsieur Frédéric Lardot, vous êtes donc artisan d'art sur bois. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise qui est toute jeune puisqu'elle date de fin 2015?
Exactement. Donc, je suis tourneur sur bois. Je suis installé donc à Ligny-sur-Sorgue depuis octobre 2015. Mm-hmm. C'est une seconde carrière, mais la formation que j'ai pu recevoir, j'ai décidé de m'installer en tant que tourneur principalement, mais également sculpteur sur bois. Et je réalise des objets pour la décoration d'intérieur, mais également je propose des stages de formation, d'initiation exactement dans ces métiers de sculpture et de tournage sur bois.
Alors, pour l'instant, vous êtes seul dans l'entreprise?
Oui, c'est un début. On y va doucement, mais sûrement.
Donc, quelles sont les compétences exactes que vous avez? Vous nous avez dit que vous êtes donc tourneur sur bois, sculpteur, vous faites aussi de la déco d'intérieur, et aussi, je pense que vous faites de la déco sur bois.
Oui, exactement. Donc, le gros avantage du tournage sur bois, c'est qu'on réussit à partir d'une pièce en rotation à la modeler, à la sculpter. C'est beaucoup plus pratique que pour un sculpteur qui va devoir passer beaucoup plus de temps. Là, on a la magie des copeaux qui fait apparaître la forme directement. Et après, ces pièces-là, en fonction de la créativité ou de la demande du client, donc soit on reste dans du traditionnel pour faire des pièces de copie, de meubles pour de la restauration, soit on peut vraiment libérer sa créativité en agissant sur des effets de texture, pyrogravure, peinture,
dorure,
exactement, tout est mm-hmm. possible. C'est vraiment très très intéressant.
Donc vous utilisez tout type de matière, des pigments, des liants?
Oui, alors ça peut être aussi bien des peintures du commerce que la réalisation et l'exploitation des pigments de la région, heureusement. Donc ça, c'est un gros avantage, ça permet de rencontrer pas mal de fournisseurs. Et puis après, on peut partir sur des objets donc de décoration d'intérieur tout en ayant des bases sur des objets qui peuvent être des jouets, qui peuvent être de la vaisselle en bois pour des associations médiévales. Donc voilà, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Et c'est vraiment très, très libératoire, en tout cas, de pouvoir travailler ce matériau.
D'accord. D'ailleurs, vous faites partie d'une association, Les Arts au Soleil.
Et bon. Alors, Les Arts au Soleil, et l'autre association, c'est la Maison des Métiers d'Art, donc, que j'ai rejoint récemment. Pour Les Arts au Soleil, c'est une association qui me permet, en tout cas, lors de marchés artisanaux mensuels, de pouvoir faire ma démonstration de tournage sur bois. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès.
D'accord. Alors, pour comprendre toutes vos compétences, on aimerait connaître votre parcours.
Alors, c'est, comme je vous le disais, c'est une seconde carrière qui a commencé précisément en 2010. Avant, j'étais militaire sur la région parisienne. Et puis, à la lecture en 2008 d'un article sur la reconversion par les métiers d'art, je me suis renseigné et donc j'ai pu contacter, j'ai été retenu par l'École supérieure d'ébénisterie d'Avignon, qui se trouve au Thor. Et en 2010, j'ai fait une formation d'ébénisterie qui devait uniquement s'arrêter là. Et puis le temps a fait que, et puis le travail du matériau a permis de découvrir d'autres sensations au niveau du travail manuel. Donc ça a débouché sur une formation en sculpture et dorure sur bois. Donc diplôme niveau 4 dans les deux formations. Et ensuite, comme j'en avais pas fini, j'ai lu des articles toujours dans le métier du bois et sur le tournage sur bois exactement. Mmh. Sur une école qui se trouvait, qui venait d'ouvrir en 2012 à Eguines dans le Var.
Mmh. Ah, comment, juste une question très bête, mais qu'est-ce qui fait qu'on se reconvertit? Est-ce que l'artisanat, vous y pensiez depuis longtemps? Est-ce que ça vous est venu comme ça? Comment on passe justement de l'armée à l'artisanat?
C'est un déclic qui se fait, ça doit être un cumul d'expériences, des choses qui se mettent dans un coin de la tête, et puis à un moment on a un élément déclencheur. Donc là, c'était la lecture d'un article, et puis effectivement, de découvrir qu'en 10 mois, n'ayant jamais travaillé le bois, cette école permet de former les gens et à faire des meubles et développer sa créativité aussi bien sur du mobilier que sur de la sculpture. C'est un potentiel énorme. Très peu de temps, une efficacité maximale en pédagogie, c'était exactement ce qui me correspondait.
Très bien.
Donc ensuite, pour pouvoir ouvrir votre entreprise, vous avez finalisé vos études par un CAP pour que ce soit officiel et que vous puissiez ouvrir votre entreprise directement.
Mmh. Oui, alors ça, c'est un peu la déformation militaire, c'est-à-dire on évolue en passant des diplômes et des professionnels et des et comment dire des examens professionnels. Donc ça a dû rester un petit peu en arrière-plan. Donc autant la formation par l'École supérieure de bénisterie d'Avignon délivrait ses diplômes, autant l'école de tournage sur bois prépare à ses diplômes. Donc il a fallu effectivement que je finalise, et ça c'était un souhait personnel, donc je me suis retrouvé à passer mon CAP à plus de 40 ans à Château-Chinon, parce qu'il n'y a que 5 lieux où on peut, en France, où on peut passer ses diplômes. Et puis c'est aussi en parallèle pour gagner du temps sur l'inscription et la création d'entreprise au niveau de la Chambre des métiers d'art. Sinon j'aurais dû attendre 6 ans avant d'avoir un numéro d'inscription.
Est-ce qu'en CAP, vous avez retrouvé des gens aussi dans votre tranche d'âge? Il y avait uniquement des jeunes, ou est-ce qu'on constate qu'il y a des gens qui se reconvertissent à ce métier-là et qui passaient à ce CAP en même temps?
Alors, pour le CAP, j'ai souvent été confondu avec un pion au moment de l'épreuve, en me demandant souvent dans quelle salle se passaient les épreuves. Et donc, moi, j'expliquais que je n'étais pas là, que j'étais juste un candidat, et je retrouvais ces mêmes personnes à côté de moi au moment de l'examen. Donc, effectivement, il y a une grosse différence d'âge. Par contre, en ce qui concerne l'école d'ébénisterie, là, c'est vraiment, comme c'est du recrutement qui se fait à titre privé, on a de 18 à plus de 60 ans, toutes générations confondues, hommes, femmes, attentes, toutes différentes. Là, c'est vraiment un bon mélange social pour découvrir, par l'intermédiaire du bois, par une même passion, découvrir les gens. C'est vraiment une très forte expérience.
Pour le coup, le CAP, on entend hein, cette formation un petit peu militaire qui voulait que, je présume que ça soit plutôt carré, hein, la formation est validée, l'inscription à la Chambre des métiers également, mais je présume que les banques aussi sont rassurées quand on monte une affaire et qu'on va les solliciter si on a la qualification diplômée, on va dire.
Bien sûr, donc là au niveau des partenaires, la banque, je rappelle, est un partenaire pour le chef d'entreprise. Donc effectivement, ça apporte une crédibilité, ça montre l'investissement personnel du client de la banque qui veut s'installer, et puis de pouvoir après développer plus facilement certaines activités, certaines demandes de ressources, et éventuellement profiter des différentes connaissances clientèles que peuvent avoir les personnes travaillant à la banque pour pouvoir rebondir et se faire connaître.
C'est pas rien, c'est dur ça au départ. Hein.
Oui, bah là le budget communication a bien fondu. Donc c'est essentiel. De toute façon, obligé de se faire connaître maintenant. Les cartes de visite sont toujours d'actualité, comme les cartes postales pour faire connaître l'entreprise ou les dépliants. Mais bon, vu que j'ai toujours apprécié les technologies, j'ai toujours suivi ça. Donc la page Facebook, le blog, en vue de développer sur un site internet propre et qui aboutira de la vente par correspondance.
C'est pas uniquement de la vitrine, hein, ce sera un outil à terme.
Exactement, c'est un moyen supplémentaire qu'il faut pas du tout négliger, et que maintenant on a la communication. Le client actuel, c'est plus le client de 20 ans, c'est un peu l'enfant gâté, c'est la disponibilité, l'immédiateté, la personnalisation, voire l'argent.
Et l'ergonomie aussi des sites. Important.
Exactement.
C'est bien.
Qui sont vos fournisseurs?
Alors l'avantage du tourneur sur bois, c'est que les fournisseurs, on en a pas mal. Et pas forcément trop cher. Alors on a effectivement la référence, ce sont les négociants en bois qui fournissent les ébénistes et les menuisiers sur des formats, sur des essences aux dimensions standardisées, avec une disponibilité immédiate. Après, on peut partir sur des contacts auprès des lagueurs, de bûcherons, de pépiniéristes, qui, lorsqu'ils ont des chantiers d'abattage ou des saisons, des périodes pour le déracinage qui est plutôt en fin d'année, nous permet en tant que tourneur d'intervenir sur des morceaux de bois, justement que les ébénistes ou les menuisiers ne peuvent pas travailler pour des raisons de densité, de technologie, de dimension, tout simplement. Le tourneur sur bois est en mesure d'intervenir juste avant la transformation en bois de chauffage de pas mal d'essence, aussi bien indigène, française qu'étrangère.
Et pour le matériel que vous utilisez?
Alors donc pour le matériel, il y a plusieurs boutiques spécialisées pour le bois, quelques-unes un peu plus sur le tournage sur bois, mais c'est du matériel qui est en général acheté pour du long terme. Donc c'est des outils très très résistants. Après, il y a un entretien à faire sur ces outils, l'affûtage principalement, pour pouvoir en bénéficier.
Ça veut dire quand même qu'il y a un investissement lourd au départ sur l'outillage.
Oui, donc au niveau machine, mais comme toute profession, qui plus est, comme le tournage sur bois n'est pas très très répandu, il y a une on peut pas dire qu'il y a une grosse densité de tourneurs sur bois en France. Donc c'est un peu difficile de trouver un maître artisan, devenir son apprenti et pouvoir reprendre à l'issue. Donc c'est une décision d'implantation. Alors si on décide de s'implanter, bien sûr, en tant que professionnel. Après, en fonction, il y a des gens qui sont déjà propriétaires d'un bâtiment qui vont transformer une de leurs pièces en local professionnel ou faire du tournage sur bois en tant que passionné. Ça, c'est un autre domaine.
Qui sont vos clients?
Alors les clients.
Des touristes.
On est en pleine saison, ça commence. Donc par l'intermédiaire des démonstrations que je fais par le marché artisanal sur l'île sur la Sorgue, j'ai effectivement beaucoup de touristes, donc des personnes qui ne sont que de passage entre guillemets, mais qui vont vouloir apporter un souvenir de la région, mais pas forcément à base de lavande ou de cigales. Donc ça, bien, ça permet vraiment de promouvoir la personnalité, l'artisanat local. Ça va être par contre aussi des personnes qu'on va pouvoir fidéliser lors de ces rencontres, qui sont de la région, qui sont de passage, et puis qui sont. Ça va être également cette clientèle peut être des professionnels. Ça peut être des restaurateurs pour une copie de pièces d'un meuble de style. Et là, je suis en train de me mettre en place, entre guillemets, de me présenter à l'école d'ébénisterie dans laquelle j'ai appris mon métier pour, comme dans la formation, il y a un meuble de, une pièce de fin d'année réalisée par les élèves. Moi, je me présente pour promouvoir mon métier et pouvoir les aider à aller un peu plus loin dans leur créativité.
Sachant que vous proposez aussi des ateliers de tournage sur bois, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de l'Office de tourisme intercommunal. Donc après, il faut téléphoner pour avoir les tarifs. Mais en tout cas, voilà, vous donnez des ateliers de tournage sur bois, sur rendez-vous. Donc, qui veut peut apprendre, en fait, avec vous.
Voilà, exactement. Donc, ce sont des ateliers d'initiation, ou en tournage ou en sculpture sur bois, destinés à des personnes adultes. On apprendra à sculpter ou à tourner, comme on peut faire apprendre de la poterie ou aller au cinéma. Ça, c'est vraiment en fonction des attraits, des goûts des gens. Et on repart avec une pièce gravée, sculptée, tournée. Et ça peut déboucher sur des pièces un peu plus élaborées pour la suite si les personnes sont intéressées.
Alors, depuis que votre entreprise existe, ça fait plus de 6 mois maintenant. Quel développement économique vous projetez pour votre activité?
Alors toujours la communication pour cette première année, donc parce que je suis arrivé au mois d'octobre, ce qui est pas vraiment la période la plus faste pour se faire connaître. Alors même si c'était un peu de temps après, on pouvait travailler sur les marchés de Noël, mais bon, comme c'est une première activité, on a envie que tout soit bien, ça prend du temps, se faire connaître, investir dans les contacts, essayer de porter une image valorisante pour le métier et surtout pour la personnalité et la signature des pièces qu'on va réaliser. Ça se met en place et donc c'est contacter les offices de tourisme, contacter la chambre des métiers pour service de promotion des métiers d'art. C'est les différentes communes porteuses de marchés ou de salons, de fêtes vraiment typiques de la région. Par exemple, là, je vais rejoindre Sceaux le 15 août pour la fête de la lavande. Donc là, c'est vraiment pour faire découvrir le métier de tourneur sur bois. Mais m'étant installé en octobre, j'ai pu participer au Salon National des Métiers d'Art d'Avignon au mois de mai, fin mai, qui était organisé par la Chambre des Métiers et qui sélectionnait des candidats pour représenter l'artisanat d'art français. Donc c'est valant. Là aussi, c'est très valorisant quand on commence une activité.
Oui, il y a de quoi faire. Vous n'êtes pas seul, même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tourneurs sur bois. Il y a quand même beaucoup d'artisans et d'artistes. Donc il y a de quoi quand même faire un réseau.
Exactement. Alors après, il y a la barrière artisan d'art, artiste. C'est, je pense que ça est source de discussion et très très régulière entre les deux, professions. Encore, c'est pas, je vais pas donner ce terme-là. Je pense que c'est surtout une dénomination administrative parce que après, lorsqu'on met son cœur, lorsqu'on maîtrise le geste, lorsqu'on met son cœur et qu'on fait travailler son imagination, l'artisan d'art rejoint l'artiste. Et très facilement. Alors après, des artisans d'art, on peut dire que pourront plus facilement évoluer vers l'artiste un peu plus difficilement vers l'artisan d'art. Donc ça, c'est des sujets de discussion, des fois un peu tendus, voire de discorde, qui existent malheureusement, parce que là on aborde avec la création le problème de l'ego, donc le fondement de la personnalité. Et quand on crée, c'est le petit truc qui est dans la tête et qui permet ensuite qu'on veut absolument montrer, qu'on veut sortir. C'est un peu comme le petit caillou dans la chaussure, ça démange et puis on réussit à le mettre en place et puis ensuite on veut le montrer aux gens. Donc c'est très très basé sur le la communication là aussi. Donc c'est regardez, j'ai fait ça. Alors je parle pour les créations en général, ça peut être voyer, santé, goûter. Donc on fait travailler les sens. Voilà ce que je suis capable de faire. Si je suis capable de vous donner une émotion là-dessus, ben c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir en discuter par la suite.
Du coup, question de néophyte, peut-être à côté, hein, mais en tourneur, ben on voit un petit peu les objets qui peuvent relever du patrimoine local, hein, des plats, etc. Et par contre, effectivement, dans cette expression artistique, est-ce qu'il y a la création d'objets de décoration entre guillemets originaux? Quelle est la part de création hors patrimoine local, on va dire, et la part de création artistique pure dans votre activité? Est-ce que vous vous situez exclusivement dans l'objet ou provençal ou de terroir et de bois, ou est-ce que vous êtes dans une création contemporaine? Ça se passe comment?
Alors ça va être un peu la réponse générale, les deux.
Ah voilà.
Non, tout simplement parce que voilà, en début d'activité, à l'issue des formations de très haute qualité que j'ai pu suivre, on se sent un peu capable de tout faire. Donc ça part un peu dans tous les sens au départ. Il faut se discipliner, il faut connaître la demande effectivement. Donc c'est présenter son métier, mais c'est surtout essayer de savoir vers quelle clientèle on veut s'orienter. Là, on choisit sa clientèle, on s'éduque par le marché, mais après on peut éduquer aussi le marché. Donc ça aussi c'est un travail à long terme. Mmh. Donc régionalement, on a un fort potentiel mobilier. Entre autres avec la panetière qui a des éléments tournés, mais aussi le pétrin. Donc là on rentre dans l'ébénisterie ou le meuble à Granin. Mm-hmm. Donc il y a une identité forte comme en Bretagne, comme en Alsace par exemple.
D'accord.
Donc effectivement ça reste vraiment un domaine très très porteur. Enfin on sait qu'on peut se reposer dessus. Après les modes, les goûts ont évolué, donc c'est un peu plus difficile là faut vraiment aller chercher le client entre guillemets, alors via l'intermédiaire peut-être de brocanteur ou d'antiquaire. Après pour la création et la décoration d'intérieur, c'est quelque chose qui est au goût du jour pour moi. On le voit sur les blogs, on voit sur les sites, on voit sur Pinterest, on voit sur les blogs de Elle, on voit surtout les concept stores qui se développent, les reconstitutions d'intérieur avec aussi bien la possibilité d'acheter un tapis, un fauteuil que des tenues. Là, je suis en contact actuellement avec un concept store à Carpentras, à Zélé, chez qui là j'ai pu exposer quelques pièces très récemment, et je continue ma démarche parce que les produits que je propose, j'estime qu'ils sont en mesure d'être dans ces environnements-là. J'ai démarché quelques galeries, une boutique de créateurs sur la Sorgue. Le contact s'est pas très bien passé parce que je fais pas partie du réseau, parce que j'ai personne derrière pour me porter, y a pas de mécène, c'est se faire connaître, c'est développer un répertoire. Donc là justement je parlais d'ego tout à l'heure, on essaie de le calmer, on le met de côté, on le range et puis on sort en souriant. Voilà.
Ça prend du temps, quoi.
On souhaite une bonne journée à la personne avec qui on a eu contact.
C'est ça, prendre du temps pour s'implanter localement aussi dans ses partenariats professionnels, quoi.
Exactement. Donc après puisque c'est comme ça, autant dans le milieu militaire, on se retrouve dans un environnement très cadré avec quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous, on fait partie d'une chaîne de commandement, autant là en tant qu'artisan d'art, chef d'entreprise plutôt, là on est vraiment autonome.
Les
lignes sont moins claires, et c'est la persévérance, et puis surtout le fait de proposer des objets qu'on fabrique soi-même et que c'est pas de la revente comme on peut trouver sur certains marchés. Ça aussi c'est un peu la guerre avec les contacts, les offices de tourisme en général ça va, ce qui est organisé par certaines associations ça va. Après j'ai eu des soucis avec des municipalités dans le coin parce que ils voulaient absolument faire du chiffre de fréquentation sans regarder la qualité et la promotion des produits, quoi.
D'accord.
Surtout au moment du festival d'Avignon. Voilà, j'ai dit.
C'est dit. Tu ne seras pas coupé.
Merci.
Célia.
Donc le contexte économique de votre activité n'est pas facile, même s'il y a quand même beaucoup d'ouvertures. Il va falloir se mettre dans les brèches,
exactement,
rentrer dans les niches.
Voilà, donc c'est moi mon intention, c'est tout simplement faire découvrir ou redécouvrir le tournage sur bois, parce que c'est assez intergénérationnel, ça fait quand même partie des, c'est une transmission de gestes traditionnels. Le tourneur sur bois, il est les plus vieilles traces qu'on peut trouver, ça remonte en 1350 avant Jésus-Christ en Égypte, avec des machines, des tours à archer comme on peut trouver encore au Maroc, donc c'est pour faire des mouches à rabier. Donc ça fait partie d'un patrimoine humain, donc et on retrouve des pièces, historiquement c'est très fort, internationalement, donc il y a des rencontres internationales aussi qui ont lieu tous les ans aux États-Unis, en France, donc c'est quand même une raison d'être, d'exister. Maintenant, on est plutôt effectivement sur la partie, on est entre l'amateur et la partie hobby, ou la partie vraiment porteuse par certaines personnes en France qui sont vraiment reconnues à l'international. Et il y a une brèche à combler, pour prendre votre expression, faut redynamiser le métier. Alors c'est très dur, effectivement, c'est au-delà du métier en lui-même, c'est une entreprise à monter. On peut pas parler de concurrence de tourneurs sur bois, c'est vraiment on peut faire tellement de choses que c'est très vaste. Donc c'est plus des collègues entre guillemets, voilà, quand on se rend compte, c'est vraiment pour échanger, et pas copier. Vous mettez plusieurs tourneurs sur bois dans une même ville, il n'y aura pas vraiment de concurrence. Vous mettez par contre plusieurs ébénistes, ça peut, en plus au niveau de l'ébénisterie là, c'est un peu dur aussi économiquement. Et puis c'est pas un métier vital non plus, donc c'est pas un métier de bouche, c'est pas le garagiste, c'est pas le plombier dont les gens peuvent avoir besoin absolument dans leur cellule familiale. Donc là c'est vraiment du loisir. Donc se faire connaître par des supports, des commerces de loisirs et par internet, et puis et communiquer, échanger. C'est une autre approche. Là, on passe vraiment dans un environnement éducatif. L'éducation nationale justement va devoir faire évoluer. On n'est plus dans le faire apprendre notre passé par l'intermédiaire de la lecture, de l'écriture et le calcul. Maintenant, on passe à un niveau supérieur pour le 21e siècle. C'est faire se poser les bonnes questions aux étudiants. Et ça, c'est malheureusement, on va encore avoir du retard en France pour ça.
En tout cas, moi, j'ai entendu dans ce que vous avez dit quelque chose de positif que j'attendais peut-être pas trop. C'est le fait que qu'il y ait des gens qui s'adonnent à ça en tant que hobby, en tant que amateur. Je veux pas paraître trop vieux, mais quand même, à l'époque, il y avait des pyrograveurs. Il y avait des dérivés de métiers artisanaux qui trouvaient leur place en tant que jouets d'enfants. Il y avait des ciseaux à bois dans les maisons. Il y avait des petits tours de poterie, etc. Il y avait ces jeux-là pour les enfants. J'ai l'impression qu'on est un peu moins sur ces activités, donc que la sensibilisation en tant qu'enfant se fait moins. Donc je suis du coup étonné d'entendre que des gens le pratiquent en tant que hobby, des gens le pratiquent en amateur, ce qui veut dire que malgré tout, il y a un appétit, un plaisir à le faire, et que ça continue à exister dans un contexte qui est peut-être moins favorable au départ, quoi.
Oui, donc ça c'est moi de toute façon quand je tourne une pièce, comme je disais tout à l'heure, quand on voit les copeaux voler, apparaître la forme, c'est toutes les pièces que je tourne, j'ai le même déclic entre guillemets que lorsque j'ai vu la première fois un tourneur à un mètre de moi faire ses pièces, et c'est superbe. Et puis on promet le passage de l'ébénisterie, de la sculpture à la tournage sur bois, en plus permet de développer ses connaissances sur l'essence du bois. Et on voit ce qu'il y a à l'intérieur, on voit les différentes particularités, on travaille des morceaux de bois que d'autres métiers ne peuvent pas travailler. En plus, localement, on a du côté de Montpellier, dans l'Hérault, on a le bois de garrigue, donc qui est un bois parasite, enfin, qui sont des essences parasites qui poussent un peu au milieu de nulle part, qui sont pas de grosses sections, qui ont pas des troncs très importants et qui sont en général déracinés, abattus et mis au feu. Alors que nous, on peut intervenir sur du genévrier 4, du buis, du pistachier, de l'arbousier, du filaire, et on est capable de les mettre en valeur, en vivre, surtout. Et puis, pareil, moi j'ai toujours, quand t'es militaire, on est toujours en train de former les gens, se former en se perfectionnant de façon à automatiser les gestes, mais ça c'est valable pour la danse, pour la musique, donc de façon à développer la créativité, que ça se fasse, qu'on ait plus de limites techniques. Et former aussi les gens, les faire découvrir ces métiers-là, parce que ça fait partie de leur patrimoine et pour les générations à venir aussi. Donc, moi, je suis tout à fait défenseur du principe qu'on peut faire écotoyer Facebook et le métier manuel. Oui. Alors, si c'est pas du tournage sur bois, ce sera effectivement de la poterie, ce sera la rapidité de communication. Il faut que ça. Justement, ce que je disais tout à l'heure, pour faire se poser les bonnes questions, maintenant, il faut développer la créativité par l'intermédiaire de la critique, de la pensée critique. On n'est plus vraiment, on existe en tant qu'individu pour communiquer avec d'autres individus. Il faut que ce soit de la collaboration, de la coopération, c'est de la communication, c'est de l'immédiateté, et ça aboutit à la créativité. Vous mettez une personne qui fait un dessin, on lui demande de faire un dessin dans une pièce, elle va faire un petit peu en fonction de ce qu'elle a envie en fonction de ses idées, mais ça va mettre un peu de temps. Vous mettez 5-6 personnes en même temps dans la pièce pour la créativité. Je peux vous dire que vous allez, alors ça, t'avoir des dessins plus ou moins bien faits, ça va partir un peu dans tous les sens, mais au niveau créativité, c'est génial. Et ça, à n'importe quel âge, que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes. Et la grosse bagarre que je vais avoir, je pense, avec les maternelles plus tard, ça va être pour mes enfants, quand ils vont me rapporter une maison, parce qu'on leur a dit de faire une maison comme les 24 autres petites maisons des autres enfants, moi je leur ai dit, maintenant t'as des couleurs, tu fais ce que tu veux. C'est ça aussi, il faut les laisser partir là-dedans, quoi. C'est le formatage, c'est très bien effectivement pour des raisons de sécurité si on a des objets un peu dangereux, mais un environnement un peu dangereux, mais le formatage à un moment, malheureusement, c'est les générations évoluent, il faut s'adapter.
Donc Frédéric, j'entends qu'il y a au-delà hein, dans ce qu'on pourrait demander à l'éducation nationale, mais que vous-même dans votre approche professionnelle, vous intégrez cette notion de pédagogie, vous animez, on l'a dit, des ateliers, etc. C'est pas forcément évident quand on monte son entreprise, parce qu'il y a un impératif économique aussi. Donc pour le coup, c'est important d'avoir des soutiens, et d'ailleurs même des soutiens institutionnels, ce qui fait entre autres qu'on a la chance de vous recevoir aujourd'hui pour cette interview, par l'entremise, je le disais, hein, du service de développement économique. La communauté de communes. Je grille un peu ta question, Célia. C'était la question un peu de vos soutiens justement institutionnels. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des structures localement qui vous aident pour développer cette activité?
Donc oui, Célia. Pardon.
Oui, oui. Bah, du coup, voilà, il pose ma question et il a raison. C'est en fait, on voudrait savoir donc vos soutiens institutionnels. C'est vrai que c'est grâce à la communauté de communes que vous êtes ici à la radio. C'est eux qui vous envoient ici. Et du coup, qu'est-ce que la communauté de communes du Pays des Sorgues des Monts de Vaucluse vous apporte?
Alors c'est un peu le. Alors je remercie Monsieur Outers avec qui j'ai eu un contact dès le départ pour m'installer et qui a toujours été disponible pour répondre à mes questions et m'orienter sur certaines décisions. Mais ça, c'est comme beaucoup de choses, ça va être un peu comme votre banquier ou votre assureur, ça dépend de la personne que vous avez en face. Monsieur Outer, c'est très ouvert et il est très motivé dans ses démarches, ce qui n'est pas le cas après de certains adjoints culture au niveau de municipalités. Et malheureusement, entre des mairies qui veulent avant tout faire de l'argent et des mairies qui veulent promouvoir un patrimoine, certaines professions, redynamiser certaines professions et ensuite, entre guillemets, faire de l'argent, il y a tout un monde. Et ça, c'est une bataille perpétuelle. Donc pareil, faut recréer quelque chose, faut se faire un réseau, faut se montrer, faut un jour dîner avec la bonne personne. Voilà, donc c'est quelque chose que je ne supporte pas, qui malheureusement, je pense devoir passer par là. Et si j'y arrive pas, ça va être un combat tous les instants pour se faire valoir. Donc effectivement, je vous dis, ça dépend de la personne en face. Jusqu'à présent, j'ai eu très très bon contact au niveau de la communauté de communes. Office de tourisme, très très bon contact aussi, parce que là, ils sont très contents de voir à nouveau des nouvelles réalisations. Mais j'ai un avis très tranché, j'ai plus de 40 ans, donc maintenant je suis en mesure tout à fait de pouvoir avoir une analyse sur ce que c'est que de faire une nouvelle carrière, un nouveau métier en partant de pas grand chose et puis savoir ce qu'on veut et défendre ses intérêts, savoir se défendre plutôt que d'être mis dans un moule. C'est un peu bizarre de faire ça quand on était 20 ans dans l'armée, mais voilà, on a un esprit critique qui se met en place.
C'est aussi votre parcours qui fait ça aujourd'hui. C'est, je pense, plutôt une chance. En même temps, il vaut mieux avoir des avis, une personnalité dans ses métiers d'art.
Bien sûr.
Et l'exprimer aussi dans son métier. D'ailleurs, on a besoin de savoir comment vous contacter, avoir toutes les infos, Célia, c'est ça?
Oui. Alors, vous allez me couper si je me trompe. Donc, on peut vous trouver sur Internet, donc sur votre site Internet. C'est lardeau-fr.blogspot.fr.
LARDEAU.
Voilà. Sinon, on peut aussi aller sur la page Facebook qui s'appelle Artisan d'art sur bois Frédéric Lardeau. Lardeau toujours LARDEAU. Et vous avez aussi une adresse email lardeau.fr@gmail.com. On peut vous téléphoner au 06 72 14 41 28.
On donne les 06, non?
Voilà, sinon pour vous voir en physique, on peut aller donc dans le pool d'entreprise du bâtiment et de décoration qui s'appelle Domus, donc 100 avenue de la Petite Marine à Lys-sur-la-Sorgue. Mais il vaut mieux vous appeler quand même parce que du coup vous êtes souvent en mouvement. Vous serez notamment sur le marché des artisanales de Lys-sur-la-Sorgue Ça se passe
Alors ça se passe place Robert Vasse le premier samedi de chaque mois, donc voilà. Prochain rendez-vous c'est samedi de la semaine prochaine de juillet.
Le premier samedi de juillet, 1er d'août
et 1er de septembre.
Voilà. Donc on vous retrouve aussi avec l'association Les Arts au Soleil.
Donc c'est par cette association là exactement.
Voilà. Bientôt vous faites des portes ouvertes aussi.
Je pensais les faire au début, puis ben, petit à petit voilà, ça repousse, mais donc ce sera effectivement l'occasion d'accueillir la presse et les représentants de l'institution.
Vers quelle période pour le coup? La question.
Au mieux septembre, sinon un peu plus vers Noël.
Mais faudra venir dans l'agenda, nous en parler, comme ça on fera un focus là-dessus, sans
oui,
faute.
Oui.
Et on vous retrouvera aussi peut-être dans des expositions d'antiquité à l'île sur la Sorgue, mais c'est pas encore sûr.
Voilà, oui, j'ai au moment de la foire internationale, donc je pourrais. Là, j'ai des contacts à confirmer pour faire des démonstrations de tournage sur bois au niveau de l'hôtel d'Angier. Il y aura effectivement en plus la fête de la lavande à Sceaux, donc là j'ai eu confirmation le 15 août, le salon des arts, des métiers d'art à Beaucaire 7, 8, 9 octobre l'a confirmé aussi, les rencontres des métiers d'art à Pernes-les-Fontaines pour la Toussaint, donc aussi là aussi à confirmer, donc les candidatures sont lancées, plus d'autres éventuellement qui vont arriveront. Donc tout ça, toute cette actualité, pardon, tout l'agenda, vous pouvez le retrouver soit sur le blog, soit sur la page Facebook.
D'accord.
Parfait tout ça. Merci Frédéric Lardot, je rappelle, atelier d'art sur bois, Frédéric Lardot, directement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie.
Merci, repassez, nous parler de votre actu, porte ouverte et autres, faut pas hésiter.
Avec plaisir.
On est là pour ça, affaire à suivre. Merci Célia pour tes questions. Frédéric,
merci.
Bonne chance.
Oui.
Bonne continuation et à très bientôt.
R D S Radio des Sorgues.
Source
de richesse.